C'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France. Ce soir, nous serons avec l'écrivain Alexis Génie qui publie « La beauté dure toujours » chez Gallimard. À 19h, le journal d'Hélène Roussel. À 19h20, le téléphone sonne. Auto, moto, vélo, trottinette, camion, piéton, comment partager la voie publique en toute sécurité? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000, le standard est déjà ouvert. Mais d'abord le journal de 18h, bonsoir Maria Melkurdi.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Plus de 120 morts en Europe après les inondations et les pluies diluviennes. Image de catastrophe dans l'ouest de l'Allemagne. Nous serons à Erftstadt-Blessem près de Cologne où un glissement de terrain s'est produit ce matin. Au sommaire également, ce soir, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. On retrouvera Nicolas Perronnet à l'arrivée de la 19e étape du Tour de France. Remporté par un Slovène, mais pas celui dont on parle depuis le début du tour. Non, c'est Matej Pohorič qui l'emporte. On entendra également des touristes ravis à Paris. La Tour Eiffel vient de rouvrir après 9 mois de fermeture.
France Inter. Des images de chaos après des intempéries dévastatrices en Europe.
Images effrayantes, oui, dans l'ouest de l'Allemagne, notamment région la plus affectée par ces pluies torrentielles et des inondations. Images de rues transformées en rivières, d'habitants en détresse à la recherche de proches disparus. C'est aussi dans l'ouest de l'Allemagne que le bilan est le plus lourd ce soir. Au moins 103 morts. Et à Erftstadt-Blessem, près de Cologne, en Rhénanie du Nord, le sol s'est littéralement ouvert. Glissement de terrain fatal ce matin. Sur place, reportage de Sébastien Baer.
La vision est saisissante, effrayante. Soudain, la chaussée s'arrête et plonge d'une quinzaine de mètres. Les eaux ont rongé, fragilisé, grignoté le bitume qui, en s'effondrant, a emporté les habitations et les voitures. La portion de route s'est transformée en rivière. Mélina, 18 ans, qui vit dans un village voisin, a du mal à réaliser.
C'est impossible à décrire. Les routes sont dévastées et les maisons complètement détruites. On dirait un tremblement de terre. On n'avait jamais connu ça en Allemagne. Je pense aux gens qui vivent ici, c'est incompréhensible.
En s'éloignant de la faille qui coupe désormais le village en deux, le silence revient, la plupart des portes sont béantes, les habitants déposent sur les trottoirs les meubles gorgés d'eau, les jouets boueux, les livres. Thomas, 32 ans, aide son père à nettoyer.
L'eau est montée jusqu'ici, à 1,50 m de hauteur. Je suis venu sauver ce que je pouvais, les photos, les bijoux. On essaie de retrouver ce qui a de la valeur. Vous savez, c'est l'hélicoptère qui m'a sauvé. Je vais vous montrer la vidéo.
Sur la vidéo, on voit Thomas en train d'être élitreillé par les pompiers. Le jeune homme, réfugié sur son toit, a été l'un des derniers à être secouru dans le village, qui a enregistré au moins 2 décès. Erftstadt-Blessem, Sébastien Baer, France Inter.
Et la chancelière allemande Angela Merkel se dit bouleversée par cette catastrophe. Plus d'un millier de personnes sont portées disparues. La Belgique est également affectée. Au moins 20 morts, une vingtaine de disparus. Inondation sans précédent selon le Premier ministre belge qui a décrété que le mardi 20 juillet serait une journée de deuil national. La ville de Pepinster, à 30 km de Liège, concentre à elle seule la moitié des victimes. L'eau y est montée à près de 4 mètres. Le roi Philippe est sur place. Les pluies diluviennes ont également causé des dégâts aux Pays-Bas, au Luxembourg ou encore en Suisse. Face à ce déchaînement impressionnant de la nature, on pense forcément au réchauffement de la planète. Le président allemand lui-même a lâché le mot. Frank-Walter Steinmeier appelle à lutter résolument contre le réchauffement climatique. Les météorologues, eux, parlent du phénomène dit de la goutte froide, phénomène engendré par la présence d'une masse d'air froid qui se fixe au-dessus d'une zone géographique précise. Elle peut alors renforcer la puissance d'une dépression responsable du temps agité. Ce phénomène peut aussi expliquer les intempéries en France, situation nettement moins grave. 11 départements en vigilance orange, au cru dans le nord-est, mais la situation s'améliore, notamment en Alsace. Une autre question qui vient face à ces intempéries, comment les appréhender? Il faudrait développer la culture du risque face à ce type de catastrophes naturelles qui seront plus fréquentes et intenses, selon Alix Roumania, qu'il préside Predict Service, la filiale risque de Météo France, et il propose des pistes précises.
Les citoyens doivent comprendre que sur des événements extrêmes, il y a des attitudes à observer, éviter de circuler lorsque l'événement est en cours, rester à l'abri dans les étages. Ce qui est compliqué, c'est que aujourd'hui, on le sait, en France par exemple, il y a plus de 30% des habitations qui sont construites en zone inondable. C'est vrai aussi dans toute l'Europe. Donc on ne peut pas, du jour au lendemain, supprimer ces habitations de zone inondable. On peut éviter d'en construire de nouvelles, mais pour ce qui est en place, il faut prévoir des processus de mise en sécurité lorsque ces événements arrivent, avec des messages d'avertissement vers les citoyens pour que les gens garent leurs véhicules en hauteur, puissent mettre des bâtards d'eau, ou soient évacués et mis en sécurité dans des zones hors d'eau. Tout ça est retranscrit dans ce qu'on appelle en France un plan communal de sauvegarde. Ce concept doit se développer sur l'ensemble des territoires qui vont être concernés par ce type d'événement.
Des propos recueillis par Sandy Dauphin pour France Inter. La France est solidaire dans l'épreuve traversée par l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, affirme Emmanuel Macron sur Twitter. Il promet l'aide de Paris, où il y en a l'utilité. Le président de la République était en déplacement à Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Il a notamment visité une usine du groupe ferroviaire espagnol CAF. Discours axé sur la défense de son plan de relance et des réformes économiques menées depuis le début du quinquennat. En particulier celle de la fiscalité avec la baisse de l'impôt sur les sociétés et la suppression de l'ISF. Déplacement également à Lourdes du président de la République, ville la plus sinistrée par la crise sanitaire. Première fois qu'un président pénètre dans le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, un haut sanctuaire du catholicisme.
Un ministre de la Justice dans l'embarras ce soir.
Oui, Éric Dupond-Moretti a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. C'est inédit pour un ministre de la Justice en exercice. Il a passé un interrogatoire de près de 6 heures devant la Cour de la Justice de la République. Il est soupçonné d'avoir réglé ses comptes avec des magistrats à qui il avait eu affaire quand il était avocat. Réaction indignée ce soir de l'un de ses avocats, Christophe Ingrin.
Sans surprise, il a été mis en examen. Il ne lui a pas été expliqué les raisons pour lesquelles la commission d'instruction a considéré que les indices graves et concordants étaient réunis et justifiaient sa mise en examen. Ce mépris pour ses droits s'inscrit dans la suite des anomalies que nous avons constatées et dénoncées depuis le début de la procédure. La plainte qui fonde cette procédure est déposée par le syndicat de magistrats qui avait qualifié la nomination d'Éric Dupond-Moretti de déclaration de guerre. La perquisition qui a eu lieu au ministère de la Justice a été annoncée la veille dans la presse. Il a apporté tout au long de cette audition des explications très claires et très précises sur les faits qui lui sont reprochés. Ces explications n'ont malheureusement pas suffi à renverser une décision qui était prise avant l'audition. Nous allons évidemment désormais la contester, cette mise en examen.
Un événement grave, sans précédent, réagit l'Union syndicale des magistrats ce soir. Le Premier ministre Jean Castex, lui, renouvelle sa confiance à Éric Dupond-Moretti. Annonce de Matignon, les sénateurs membres du Parti Socialiste appellent à la démission du garde des Sceaux, tandis qu'à droite, au contraire, on défend plutôt son maintien. Même chose pour Sébastien Chenu, député RN du Nord et pourtant farouche adversaire d'Éric Dupond-Moretti.
Nous considérons que cette présomption d'innocence, même lorsqu'elle vaut et qu'elle satisfait nos pires adversaires politiques, comme l'Éric Dupond-Moretti, eh bien, elle doit être préservée. Parce que sinon, eh bien, on entre dans une sorte de république des juges. Et ça, c'est probablement ce qu'il y a de pire pour nos libertés. Pire que voir encore Éric Dupond-Moretti maintenu à la tête du ministère de la Justice, c'est le fait d'entrer dans une sorte de république des juges qui dirait qui a le droit d'être ministre et qui n'a pas le droit de l'être. Les juges n'ont pas à faire acte d'autorité sur le monde politique en ce qui concerne les nominations des uns et des autres. Je pense que Éric Dupond-Moretti est ce qu'il y a de pire comme garde des Sceaux. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Éric Dupond-Moretti est un adversaire acharné du Rassemblement National. Il est nullissime. Mais en revanche, ce n'est pas au juge de décider qui peut se maintenir, qui doit être nommé, qui doit pouvoir ou pas faire de la politique.
Sébastien Chenu, député RN du Nord, il répondait à Élodie Forêt pour France Inter. Il n'y a pas lieu pour le moment de proposer une troisième dose de vaccin contre le Covid à l'ensemble de la population, en dehors des plus vulnérables et des plus âgés, faute de données disponibles. Estimation ce soir de la Haute Autorité de la Santé. Sur le front de la lutte contre la pandémie, le retour du masque obligatoire dès samedi et jusqu'au 2 août dans l'espace public dans les Pyrénées-Orientales, exception pour la plage et les grands espaces naturels. La mesure phare dans toute la France pour lutter contre la menace de la quatrième vague épidémique, c'est l'extension du pass sanitaire. L'avant-projet de loi est entre les mains du Conseil d'État avant sa présentation au Conseil des ministres lundi. Il y a encore des questions sur la manière de mettre en pratique le contrôle de ce pass sanitaire pour les salariés des établissements qui reçoivent du public, les bars, les hôtels, les restaurants, les centres commerciaux. Et des précisions ont été apportées ce soir, Hélène Philly.
Ce sera donc à l'employeur de vérifier que le pass sanitaire de ses salariés est à jour en téléchargeant l'application Tous Anti-Covid Vérif pour scanner le QR code. Le contrôle s'affichera en vert si tout est bon ou en rouge. Le chef d'entreprise ne saura pas si le salarié est vacciné, immunisé ou récemment testé, ce qui pour le ministère du Travail préserve le secret médical. L'entreprise doit pouvoir laisser du temps à son salarié pour se faire vacciner. Une autorisation d'absence rémunérée est prévue sur justificatif. Le contrat de travail peut aussi être suspendu jusqu'à 2 mois et sans salaire après un entretien pour échanger sur les moyens de régulariser la situation. Au-delà de ce délai, s'il y a une véritable opposition du salarié, une procédure de licenciement pourra être lancée. Pour les CDD en cours et prévus pour se poursuivre en septembre, la loi devrait créer une rupture de contrat possible en cas d'absence de passe sanitaire, précise aujourd'hui le ministère du Travail. Pour ceux qui seront embauchés après le 30 août, le pass sanitaire pourra être exigé au moment du recrutement.
Merci Hélène Philly du service Éco de France Inter. La 19e étape du Tour de France dans les Landes, 207 km, du plat surtout entre Mourinx et Libourne. Une étape marquée par des carambolages et des chutes, notamment celle du maillot vert et favori pour la victoire d'étape, Marc Cavendish, ainsi que le premier français au classement général, Guillaume Martin. Nicolas Perronnet, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ce soir, c'est le Slovène Matej Mohoric qui l'emporte 2 jours après la perquisition qui a visé son équipe, Bahrain Victorious, soupçonné de dopage.
Oui, il a passé la ligne d'arrivée la main sur la bouche, faisant signe à tout le monde de se taire. Une réponse aux critiques nombreuses, à la suspicion depuis cette descente de police. C'était avant-hier dans l'hôtel de son équipe Bahrain Victorious près de Pau. Matej Mohoric, l'autre Slovène du Tour, compatriote de Tadej Pogacar, déjà vainqueur en costaud après un raid solitaire. C'était lors de l'étape du Creusot en première semaine. Tout le monde, c'est vrai, attendait un sprinter aujourd'hui à Libourne, mais à travers les pins et les vignes, c'est un tout autre scénario finalement qui s'est dessiné. Une première échappée à 6, puis à 20 avec plusieurs Français, Julien Bernard, Élie Gébert ou encore Franck Bonamour qui n'ont pas résisté à l'accélération finale de Mohoric. Marc Cavendish qui a chuté, vous l'avez dit, avec son maillot vert de meilleur sprinter, devra donc patienter jusqu'aux Champs-Élysées pour espérer battre le record de 34 victoires d'Eddie Merckx. Quant au maillot jaune, Tadej Pogacar, eh bien lui a passé une journée plutôt tranquille, bien au chaud au sein d'un peloton qui a passé la ligne avec 20 minutes de retard.
Merci beaucoup Nicolas Perronnet. C'est le monument incontournable des touristes qui viennent à Paris, la Tour Eiffel. Elle a rouvert ses portes à la mi-journée aujourd'hui. La Dame de Fer était fermée depuis 9 mois et les touristes étaient nombreux, Sophie Potvin.
Sous les 4 pieds de la Tour Eiffel, des centaines de touristes prennent leur marque. Jimmy est américain, il est venu en famille avec ses 2 enfants découvrir la Dame de Fer.
On vient de Californie, on est venu pour visiter Paris. C'est notre première fois, c'est génial, c'est immense et c'est magnifique. Vous trouvez que c'est génial ? On a appris que ça rouvrait, donc on se devait de venir.
Si une partie des tickets est vendue sur place, beaucoup ont préféré réserver sur Internet. Elodie vient d'Albi, près de Toulouse.
On les a eus lundi. Ça a été un petit peu compliqué, mais on a réussi à avoir des billets, des tickets là pour 13h30. On a eu de la chance, je pense.
En prenant de la hauteur, on retrouve Jordan, 9 ans, qui vient pour la première fois.
Et il fait assez froid quand on monte au 2e étage. C'est assez joli. On voit toute la vue sur Paris.
Il est accompagné de son papa.
On est arrivé hier, on a vu que c'était fermé, on a vu que la réouverture c'était aujourd'hui, donc on est venu pour la réouverture.
Une réouverture en fanfare. Depuis le 1er juin, près de 70 000 billets ont été réservés pour visiter la Tour Eiffel cet été, dont une bonne moitié par des touristes étrangers.
Merci Sophie Potvin. Alors attention, la capacité d'accueil est réduite à 50%. 13 000 visiteurs maximum par jour. Jauge sanitaire oblige, Claire.
C'est noté. Merci beaucoup Mariam El-Kurdi. Un bon week-end à vous. On va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec Pavillon France. La marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Alors on sait qu'il y a eu des intempéries terribles en Allemagne, en Belgique et même dans une moindre mesure dans le quart nord-est de la France. Et maintenant ?
Alors, il reste 8 départements en vigilance orange pour les crues entre le nord et l'est, des crues qui continuent à se propager sur certains cours d'eau, donc restez vraiment vigilants. Il reste des averses aussi dans l'est ce soir, mais elles vont s'atténuer cette nuit et demain ce sera bien plus calme. Encore pas mal de nuages le matin sur un vaste quart nord-est, bassin parisien et massif central inclus, mais ça s'éclaircira l'après-midi. Le soleil brillera largement du nord de la Seine vers le nord-ouest, de l'Aquitaine au sud des Alpes. Sur l'Alsace, encore une petite averse possible l'après-midi. Et puis pour les températures, souvent 20 22 à 25 degrés près de la Manche, ça monte, 24 à 29 ailleurs et jusqu'à 32 en Méditerranée, Claire.
Globalement, ça s'arrange.